Recueil Le gong mystérieux de Jacques S. Futrelle. Le gong mystérieux, première partie. Monsieur Philippe était extrêmement surpris. Ce qui lui arrivait semblait dès l'abord assez bizarre pour forcer l'attention, mais tout aussitôt la chose prenait des proportions d'une étrangeté telle qu'il lui semblait impossible d'y croire en dépit de l'indiscutable témoignage de ses oreilles. À mesure que passaient les secondes, frappé régulièrement par le balancier de la pendule, M. Franklin Philippe se sentait de plus en plus incertain de la réalité de l'aventure. Non, ce n'était pas possible. Il n'avait rien entendu. C'était une hallucination. Sa raison ne trouvait aucune explication possible. Il admit qu'il s'était trompé et il sourit légèrement en songeant que ses nerfs fatigués lui jouaient sans doute de mauvais tours. Mais tandis qu'il devenait de plus en plus clair pour lui que son oreille l'avait induit en erreur, le son musical vibrait encore dans sa mémoire et ses yeux restaient anxieusement fixés sur le gong japonais d'où le son inattendu était sorti tout à l'heure. C'était un gong ordinaire, composé de 6 disques de bronze creux et emboîtés les uns dans les autres, sans se toucher cependant. Le plus grand au sommet était agrémenté de peintures aux couleurs vives, selon l'art japonais. Le gong était suspendu à un cordonnet de soie qui descendait droit du plafond dans un angle au-dessus du bureau de M. Philippe. Tout cela avait l'air très innocent et, cependant, mais brusquement la chose insolite se reproduisit. Il entendit le gong résonner de nouveau. La note qu'il entendit était claire, bien timbrée, vibrante, elle éclatait, soudaine et forte, comme nettement et volontairement frappée. Puis les ondes sonores diminuaient peu à peu d'intensité jusqu'à n'être plus que d'imperceptibles vibrations. C'était un peu fort tout de même. M. Philippe se leva en poussant une exclamation. Dans le monde de la haute finance, M. Philippe était considéré comme un homme remarquable par son intelligence et son sang-froid. Il était tout le contraire d'un nerveux. Il respirait 14 fois à la minute. Son pouls ne dépassait pas 71 pulsations durant le même laps de temps. Son calme était aussi égal au moment où il débattait un marché de plusieurs millions qu'à l'heure où, sortant de déjeuner, il allumait une cigarette. C'était grâce à ses nerfs imperturbables qu'il avait eu la force nécessaire pour arriver à 50 ans, sain de corps et d'esprit, malgré la vie intense qu'il menait. Aussi, lorsqu'il eut entendu le gong japonais retentir à nouveau, il ne se départit point de son calme. Il prit un crayon et se mit à frapper les disques de bronze l'un après l'autre, en commençant par celui qui se trouvait le plus bas. La note aiguë que donna ce premier coup l'avertit immédiatement que ce n'était pas ce disque-là qui avait résonné. Il expérimenta le second, puis le troisième. Ce n'était pas non plus cela. Arrivé au cinquième, dès le plus léger choc du crayon, il reconnut la note. Le gong frémit et trembla un peu sous le coup. Deux fois encore, M. Philippe le frappa, puis il reposa le crayon sur son bureau. Il était convaincu, c'était bien le disque qui avait résonné, mais pourquoi avait-il résonné tout seul? Durant plusieurs minutes, il demeura immobile, perdu dans ses pensées. Il réfléchissait, avec calme, posément. Il avait gardé toute sa lucidité d'esprit. « Je suppose que c'est une hallucination de Louis, » dit-il à haute voix. Pourtant, mais tout en disant cela, l'explication ne lui parut pas décisive. Il se mit à chercher une cause plus naturelle. Un insecte aurait-il frappé le gong en volant étourdiment vers cet objet brillant? Non, il en était sûr, parce qu'il regardait fixement le gong lorsque le second coup avait retenti. Il aurait donc vu l'insecte. Quelque objet se serait-il détaché du plafond? Non, il l'aurait vu aussi. D'un regard vif et perçant, il scruta toute la chambre. C'était un petit cabinet de travail qu'il s'était ménagé chez lui. Il était parfaitement seul, la porte était fermée, tout était en ordre. Il songea à la fenêtre. Elle donnait à l'est et était restée ouverte pour laisser entrer l'air adouci et pur de cette belle soirée de printemps. Le vent avait-il déplacé le gong? Il s'empara de cette idée, qui s'évanouit aussitôt que M. Philippe vit les rideaux. Il pendait droit et ne frémissait pas. Le mouvement de l'air était donc trop faible pour les soulever. Peut-être avait-on lancé une petite pierre par la fenêtre. L'absurdité de cette supposition lui sauta aux yeux. À travers toute la largeur de la fenêtre, des stores à fines mailles étaient tendus. Ils étaient intacts, et c'est à peine si un grain de sable eût pu les traverser. Intrigué, M. Philippe s'assit. Il se rendit compte alors du fait indiscutable qui rendait invraisemblable toutes ses suppositions antérieures. Le gong n'avait paru agité d'aucun mouvement perceptible quand il avait résonné. Et cependant, le son avait été fort, comme s'il avait été causé par un heurt violent. M. Philippe se souvint que, frappé d'un vif coup de crayon, le gong avait visiblement oscillé et tremblé, et que d'ailleurs, le crayon n'avait produit qu'un son très léger, relativement à celui qu'il avait primitivement entendu. Pour mieux se rendre compte, il toucha encore le gong du bout de son crayon. Si délicatement qu'il le frappa, l'objet tressaillit et se balança. « C'est bien la chose la plus extraordinaire que j'ai jamais vue, » dit-il encore à haute voix. Au bout d'un moment, il alluma un cigare, et pour la première fois de sa vie, sa main trembla. Il s'en aperçut, et cela amena un léger sourire sur ses lèvres. Alors, il serra nerveusement les poings et s'appuya au dossier de sa chaise. Il fut obligé de lutter contre lui-même pour se forcer à penser à autre chose qu'à des chimères, car son esprit l'emportait en des rêves fantastiques et grotesques, aussi vains que la fumée de son cigare. Mais, à la fin, la raison fut victorieuse et l'incident du gong se trouva relégué au pays des cauchemars et du néant. Les affaires urgentes, réelles, tangibles, concentrèrent à nouveau toute son attention. Alors, tout à coup, avec la gravité et la vigueur d'un appel au feu, le gong résonna. Une fois, deux fois, trois fois. M. Philippe bondit. Cette fois, il frémissait malgré lui. Il respira longuement, puis, après un coup d'œil circulaire autour de lui, il sortit dans l'antichambre. Là, il s'arrêta un moment, comme indécis, puis se rendit au salon. Madame Philippe, enfoncée dans un fauteuil, écoutait d'un air amusé le récit de quelques exploits de collège que lui faisait son fils Henri. Celui-ci se leva lorsque son père entra. C'était un grand et fort garçon de 17 ans, tête et corps solides, tout le portrait de son père. « Eh bien, mon ami, s'écria Madame Philippe, je vous croyais absorbé dans vos affaires. » Monsieur Philippe la regarda d'un air égaré, comme s'il sortait d'un rêve. Son fils ne se préoccupa pas de ce trouble qu'il attribuait à la fatigue, mais Madame Philippe comprit qu'il se passait quelque chose d'anormal. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle avec sollicitude. « Avez-vous des ennuis ?» Son mari, calmé par la présence des deux êtres qu'il aimait le plus au monde, sourit et s'assit auprès d'elle. « Rien, rien, dit-il, je me sens assez nerveux ce soir, et j'ai préféré venir causer un peu avec vous plutôt que de... rester penché sur vos abominables chiffres. Oh, certes, c'est très gentil !» Elle se pencha vers son mari, et dans cette attitude d'une grâce infinie, elle lui prit la main. Il la serra et sentit à ce contact que tout son empire sur lui-même lui revenait. Henri se leva bientôt et sortit. « Notre fils m'initiait au mystère du football, » dit Madame Philippe. « Il va prendre part aux grands matchs annuels qui ont lieu prochainement. » Son mari ne lui répondit pas. Il venait de se rappeler que le gong extraordinaire lui avait été donné par sa femme à l'occasion de son anniversaire quelques mois auparavant. « Pouvez-vous me dire, » demanda-t-il tout à coup, « où vous avez pris ce gong japonais qui est dans mon cabinet de travail ?»« Ce gong, je l'ai aperçu à la vitrine d'une boutique d'antiquités devant laquelle je passe quelquefois au cours de mes visites. Je l'ai vu il y a 2 ou 3 mois et je l'ai acheté. La boutique est dans la rue du marché aux fleurs. Le marchand est un vieil Allemand. Il s'appelle, je crois, Wagner. Mais pourquoi me demandez-vous cela ?»« Cet objet a l'air très vieux. Il doit dater d'une 100aine d'années, » dit M. Philippe sans répondre nettement. « Je le suppose, et les peintures en sont exquises. A-t-il une histoire particulière ?»« Pas que je sache, » répondit Madame Philippe. « A-t-il quelque caractère spécial ou extraordinaire ?» Madame Philippe secoua la tête. « Je ne vois pas bien ce que vous voulez dire, » déclara-t-elle. « Le seul caractère spécial que j'y ai vu, c'est la parfaite pureté musicale des notes qu'il donne, et la peinture, comme je vous le disais tout à l'heure. » Monsieur Philippe secoua la cendre de son cigare. « Oui, dit-il, j'ai remarqué aussi ses qualités et j'ai été frappé de la beauté de cet objet. C'est ce qui me faisait penser qu'il pouvait avoir une histoire particulière. » Il demeura quelques instants silencieux, puis il reprit. « Il paraît très précieux et doit avoir une grande valeur. »« Je ne crois pas, dit sa femme, je l'ai payé 100 francs. » Ils n'en dirent pas davantage là-dessus. mais le lendemain matin, un des premiers clients de la boutique de Wagner fut M. Franklin Philippe. C'était un magasin typique d'antiquités, de ferrailles et de bibelots. La poussière y régnait souverainement. Le marchand avait simplement mis quelques objets d'art en vitrine, mais à l'intérieur, le désordre était complet. Un vieil homme reçut le visiteur. « Monsieur Wagner ? » demanda le banquier. Le vieillard semblait avoir des habitudes d'extrême précaution, car il regarda d'abord son visiteur des pieds à la tête, puis répondit « Que désirez-vous ? » « Je voudrais savoir si vous êtes Monsieur Wagner, » dit Monsieur Philippe sèchement. « L'êtes-vous ? Oui ou non ?» Le vieux marchand soutint un instant le franc regard de son visiteur, puis baissa les yeux. « Je suis Jean Wagner, » dit-il, avec humilité. « Que désirez-vous, monsieur ? Il y a quelque temps, 2 ou 3 mois environ, vous avez vendu un gong japonais, » commença Monsieur Philippe. « Je n'en ai jamais vendu, » interrompit violemment Wagner. « Je n'ai jamais eu ici un gong japonais. Je n'en ai jamais vendu. »« Mais si, » riposta Monsieur Philippe. « Un gong japonais, formé de 6 timbres et pourvu d'un cordon de soie, comprenez-vous ? Je n'ai jamais possédé chose pareille. Je n'ai jamais eu une affaire comme ça dans mon magasin, » déclara le boutiquier avec animation. « Je n'en ai jamais vendu, ni touché, ni vu. » Monsieur Philippe considérait le marchand d'un air soupçonneux. « N'avez-vous pas de commis, ou n'en aviez-vous pas il y a 3 mois ?»« Non, pas de commis, jamais de commis !» s'écria l'homme avec une violence incompréhensible. « Il n'y a jamais personne d'autre que moi ici. Il n'y a jamais eu de gong japonais dans cette maison. Je n'en ai point vendu, je n'en ai point vu. » Monsieur Philippe étudia un moment le visage ridé du marchand qui s'efforçait vainement d'imposer ses dires aux visiteurs importuns. « Il est absurde de nier que vous avez vendu l'objet, » dit-il enfin. « Ma femme l'a acheté ici même. Je n'en ai pas vendu, » répéta obstinément l'homme. « Je n'en ai pas eu en magasin, il n'est pas venu de femme ici, je ne veux pas de femme ici. » « Je ne sais rien sur un gong japonais, je n'en ai jamais vu. » Profondément étonné et tout à fait impatienté, M. Philippe renonça à poursuivre l'entretien. Après un moment d'attente, il sortit de la boutique. Le vieux brocanteur le suivit anxieusement des yeux jusqu'à ce qu'il fût remonté en voiture. Les premiers jours du printemps passèrent, le gong ne s'était plus fait entendre. Une fois seulement, M. Philippe s'en occupa, et ce fut pour demander incidemment à sa femme si elle l'avait bien acheté à Wagner en personne. Elle répondit affirmativement, et la description qu'elle donna du marchand correspondait bien au signalement du bonhomme qui avait si étrangement reçu M. Philippe. À cette réponse de sa femme, il s'était bien demandé tout de suite pourquoi ce vieux brocanteur avait montré tant d'insistance à nier le fait d'avoir jamais vu, possédé et vendu l'objet. Mais, après quelques jours, il n'y avait plus pensé, ses affaires avaient accaparé toute son attention. Le gong était toujours suspendu dans son bureau. Parfois, le financier y jetait un coup d'œil un peu anxieux, mais il ne fit aucune tentative sérieuse pour découvrir le mot de l'énigme. Un soir, M. et Mme Philippe recevaient à dîner un jeune Japonais, fort riche et d'excellente famille, qui avait fait la connaissance de leur fils Henri à l'université. Le père d'Oku Matsumi était un diplomate en service à Londres. Après le dîner, le jeune Matsumi exprima son admiration pour les peintures qui décoraient la salle à manger et il s'ensuivit naturellement que M. Philippe lui montra d'autres pièces artistiques qu'il possédait. Un de ses chefs-d'œuvre, un Vinci, était accroché dans son cabinet de travail. M. Philippe y conduisit donc son hôte pour lui faire admirer le tableau. Alors survint un fait étrange. Dès le seuil de la petite pièce, M. Matsumi aperçut le gong. Il s'arrêta comme saisi d'une profonde surprise, considéra longuement l'objet, fit un pas vers lui et s'inclina très bas, tout comme si, à la place du gong, il avait aperçu un grand personnage qu'il fallait honorer. En même temps, de sa main droite levée, il traçait en l'air un signe mystérieux. Une longue minute, il demeura ainsi prosterné, sans que M. Philippe, médusé lui aussi, songeât à le rappeler à la réalité. Il semblait plonger en un rêve profond et voir au-delà des mers une extraordinaire scène. Un peuple immense est agenouillé en silence devant le temple du Bouddha. La nuit est silencieuse et l'on n'entend que le profond murmure des respirations innombrables. Le dieu sur son piédestal se profile devant un grand rideau doré qui forme l'entrée du temple. Par instants, des lueurs colorées, aveuglantes, subites, éclairent toute la scène et font miroiter les marbres et les ferrures du temple. Avec ces lueurs d'éclair, une odeur forte, sorte de parfum oriental, flotte dans l'air, puis tout retombe dans la pénombre, et à la lumière des torches, on ne voit plus que des ombres mouvantes autour du rideau d'or et la masse d'ombre prosternée devant le dieu. Le rideau s'ouvre, des prêtres en sortent, ils portent le feu sacré au bout de leur sceptre d'or, tout s'illumine violemment, et l'odeur d'encens flotte encore au-dessus de la multitude agenouillée. Un prêtre commence les incantations, Gantama, un autre reprend, Siddhartha, bien-aimé des dieux, et la foule, avec ensemble, Sakyamuni, fils du ciel. Et le prêtre continue, Bouddha, sage, tout-puissant, saint des saints, nous sommes à tes pieds, nous demandons ton avis. Les voix innombrables, fortes et graves de terreur, répètent les mots, et toutes les faces jaunes se relèvent et fixent la forme immobile du dieu. Alors, dans le silence anxieux qui suit la dernière syllabe de la prière, un son métallique, net et clair, a retenti. Bouddha a parlé. Un long murmure s'élève. Des millions d'yeux considèrent avec respect le gong sacré, composé de 6 disques, et qui est suspendu par une cordelette de soie au poignet de la statue. Derrière le voile d'or, les litanies recommencent, puis le vieux prêtre, à voix haute, reprend la parole. « Oh, voix de Bouddha, nous attendons ton arrêt. Tu n'as parlé que 3 fois depuis 1 siècle, et chaque fois, 11 jours après ton auguste décret, notre empereur s'est endormi dans la paix du Nirvana. Parle, en sera-t-il de même cette fois, ô Tout-Puissant ?» Un profond silence tombe, et le gong reprend sa sonnerie lente. Il sonne 1 fois, 2 fois, 3 fois. La foule pleure, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Des hurlements éclatent, 7 fois, 8 fois, 9 fois. Les prêtres recommencent à psalmodier en sourdine, 10 fois, 11 fois. Le silence est complet, les torches s'éteignent, le feu sacré meurt sur l'autel, le Bouddha s'enveloppe de ténèbres. Monsieur Matsumi se releva enfin et revint vers son hôte ahuri. « Qu'avez-vous donc fait ? Demanda Monsieur Philippe. « Excusez-moi, je vous prie. » « Mais je suis convaincu que vous ne comprendriez pas, même si je vous expliquais tout, » répliqua le japonais avec calme et d'un air parfaitement courtois. « Puis j'examinai cet objet de près, » reprit-il en désignant le gong. « Certainement. » Monsieur Matsumi, avec une certaine vivacité qui n'échappa pas à Monsieur Philippe, s'approcha et toucha légèrement chaque timbre du gong l'un après l'autre pour retrouver la note, évidemment. Puis il considéra l'objet de tout près. Sur le côté intérieur du plus large timbre, il parut trouver un détail fort intéressant. Après une minutieuse inspection, il se releva. Dans son regard brillait une flamme étrange que M. Philippe aurait bien voulu pouvoir interpréter. « Je suppose que ce n'est pas la première fois que vous voyez cet objet. » commença le financier. « Je ne l'ai jamais vu, mais vous en connaissiez l'existence. » M. Matsumi eut un mouvement d'épaule. « Pourquoi donc avez-vous agi si singulièrement ?» demanda encore M. Philippe. Le jeune homme haussa de nouveau les épaules, sa courtoisie raffinée, son extrême politesse, sa parfaite éducation. Il semblait que le gong lui eût fait oublier tout cela. Le financier se mordit les lèvres, il commençait à s'énerver et son imagination se réveillait. « Vous n'avez pas ce gong depuis longtemps, n'est-ce pas ?» demanda M. Matsumi après un silence. « Depuis 3 ou 4 mois ?» « Vous n'y avez jamais rien remarqué de particulier. » M. Philippe le regarda en face. « Mais si, » dit-il enfin, avec assurance. « Il sonne, n'est-ce pas ? Je veux dire, le 5e timbre. » M. Philippe fit un signe affirmatif. Le jeune homme devenait extrêmement grave et attentif. « L'avez-vous entendu sonner 11 fois ?» Le financier secoua la tête négativement. M. Matsumi poussa un soupir comme s'il éprouvait un inexprimable soulagement. Il y eut un long silence. Le jeune japonais croisa et décroisa plusieurs fois ses petites mains. « Excusez-moi de parler de cela en ce moment, » dit-il enfin, sur un ton très réservé et comme s'il avait peur d'offenser son interlocuteur. « Mais consentiriez-vous à vous séparer de ce gong ?» Monsieur Philippe le regarda vivement. Il cherchait à deviner les pensées de son hôte et à découvrir dans son attitude un éclaircissement quelconque. « Je n'ai pas l'intention de m'en défaire. » dit-il enfin, c'est un cadeau de ma femme. Alors, vous refuseriez n'importe quelle offre ?
Oui, certainement, répondit M. Philippe.
Puis, il s'arrêta et demeura pensif un moment.
« Ce gong m'a beaucoup intéressé, reprit-il enfin. J'aimerais connaître son histoire. Peut-être pourriez-vous me donner là-dessus quelques renseignements. »
Avec toute la courtoisie, mais aussi tout le calme de sa race, le jeune Japonais répondit négativement, et avec une politesse exquise, il posa lui-même de nouvelles questions.
« Je ne vous demanderai donc plus de vous défaire de cet objet, dit-il,
mais peut-être pourriez-vous me dire où il a été acheté. »
Il s'arrêta une seconde et reprit, « Je pourrais essayer alors de m'en procurer un semblable. »
J'ai eu l'occasion d'apprendre qu'il n'y en avait point d'autre, répliqua M. Philippe, et la boutique où celui-ci a été trouvé est celle d'un antiquaire, nommé Jean Wagner. Et ce fut tout. L'incident passa, et n'eut d'autre résultat que d'attirer la curiosité du financier, bien que le gong fût resté silencieux depuis fort longtemps. Le lendemain soir, par une splendide nuit d'été, M. Philippe eut l'occasion d'entrer dans son petit bureau. L'heure du dîner approchait. Il faisait un peu sombre déjà. Le financier ouvrit la fenêtre, replaça le store, puis il se baissa pour ouvrir un des tiroirs de son bureau. Au moment où il se baissait, la vibrante, claire et pure sonnerie retentit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au premier coup, M. Philippe se releva, et comme le second coup retentissait, il se pencha et tint les yeux fixés sur le disque. Tant que le gong continua à sonner, il se raidit violemment pour rester calme et surprendre enfin la cause du phénomène. Mais il eut beau examiner les disques, regarder au-dessus, au-dessous, autour du gong, il ne vit rien. Rien. Les sons s'élevaient simplement et sortaient du gong, mais le timbre qui les produisait ne frissonnait même pas. Lorsque le septième coup eut retenti, M. Philippe tout blême, les jambes molles, l'œil hagard, s'enfuit hors de son bureau. Une sueur abondante couvrait son front. Il passa une nuit sans repos et fut hanté de rêves étranges. Le lendemain matin, tout en déjeunant, Madame Philippe lisait son courrier. Son front se rembrunit légèrement pendant qu'elle lisait une lettre. Elle jeta alors un coup d'œil sur son mari qui parcourait le journal à côté d'elle. « Est-ce que vous tenez particulièrement au gong qui se trouve dans votre cabinet ? » demanda-t-elle. Monsieur Philippe sursauta. Cet objet le préoccupait depuis 12 heures, mais il se contint. « Pourquoi me demandez-vous cela, ma chère amie ? » dit-il. « Vous vous rappelez, n'est-ce pas, que je l'ai acheté chez un antiquaire, un nommé Jean Wagner. Eh bien, il m'offre aujourd'hui 3 000 francs de cet objet si je veux le lui revendre. Je suppose qu'il lui a trouvé une valeur qu'il ne lui connaissait pas, et ces 3 000 francs arrondiraient les sommes dont je dispose pour mes œuvres charitables. » Monsieur Philippe resta pensif. Ainsi, Wagner intervenait. Quelle était donc cette nouvelle complication ? Pourquoi ce marchand avait-il nié qu'il connût le gong ? Et surtout, après avoir nié, pourquoi essayait-il maintenant de le racheter ? En cherchant à s'expliquer tout cela, M. Philippe restait silencieux. « Eh bien, lui dit enfin sa femme, vous ne me répondez pas ?»«
Si, dit-il enfin,
je vous prie de ne vendre ce gong à aucun prix. Je veux le garder. Je vous donnerai un chèque de 3 000 francs pour vos bonnes œuvres, mais je le garde. » En parlant ainsi, il avait une attitude étrange. Il semblait inquiet. Sa femme le considéra un instant, puis, sans mot dire, elle reprit son déjeuner. Le lendemain matin arriva une autre lettre de Wagner. C'était un appel impatient, rapidement griffonné et presque incohérent. Il lui fallait le gong. Il était prêt à en donner 25 000 francs. Madame Philippe fut franchement bouleversée. Elle tendit la lettre à son mari, qui la lut 2 fois en se retenant pour ne pas montrer son énervement. Mais il n'y put tenir. « Non ! » s'écria-t-il avec violence, « il ne faut le vendre à aucun prix. » Puis sa voix tomba, il se maîtrisa et ajouta, « Non, ma chère amie, il ne faut pas le vendre. C'est un cadeau de vous, je veux le garder, mais, continua-t-il, cela va me forcer à vous signer un gros chèque, n'est-ce pas, puisque les pauvres doivent profiter de cette surenchère. » 2 fois encore, durant les 36 heures suivantes, M. Philippe entendit le gong. Il sonna un seul coup d'abord, et la seconde fois, il en sonna 4. Alors le financier ne fut plus le même. Un changement visible se fit en lui. Il perdit son apparence florissante. Il fut atteint d'un incessant tremblement des mains. Ses yeux prirent un air égaré. Ils roulaient sans cesse dans leurs orbites, comme si le financier se fût attendu à être surpris. Toute sa force intellectuelle s'évanouissait peu à peu, dévorée par la constante obsession. Il ne dit rien à personne, il lui semblait que c'était une affaire personnelle, et qu'il devait en supporter l'épreuve jusqu'au bout. Il se trouvait dans cet état de dépression nerveuse à un moment où le monde de la spéculation était fort agité, et où il fallait une extrême puissance de travail et une intelligence lucide et prompte pour diriger un mouvement financier important. Or, M. Philippe gérait des intérêts énormes, et de chacune de ses décisions, plusieurs millions dépendaient. L'importance de toutes ces affaires devint telle qu'il fut absolument forcé d'y donner toute son attention. Ce fut un effort inouï et désespéré. En arrivant à son bureau en ville, ce matin-là, il trouva un énorme courrier et des affaires importantes à élucider. Il avait entendu le gong sonner deux fois pendant la nuit. Il s'attaqua à son ouvrage avec une exaltation fébrile. Il n'était assis à son bureau que depuis quelques minutes lorsque la sonnerie du téléphone particulier retentit. Il se leva en poussant une exclamation, puis, se rendant compte que c'était le téléphone, il se rassit. Au bout d'une heure, le téléphone avait retenti une dizaine de fois, et chaque fois, le banquier avait violemment sursauté. Enfin, il se leva vivement, se précipita sur l'appareil, en arracha les fils qui s'y rendaient et les jeta dans la corbeille à papier. Puis, il alla délibérément arracher aussi les fils qui venaient de la batterie électrique. Son secrétaire le considérait avec le plus profond étonnement. « Monsieur Ernest, » fit enfin le financier d'une voix irritée, « dites au chef des installations qu'il supprime toute sonnerie téléphonique dans mon bureau, immédiatement. » Le secrétaire sortit. Vers la fin de l'après-midi, M. Philippe se rendit chez le médecin de sa famille, qui était un praticien fort renommé. Le docteur regarda le financier avec grand intérêt dès son entrée dans son cabinet. « Ah, Philippe, » dit-il, « je suis content de vous voir. Que puis-je pour vous ?»«
Soignez mes nerfs, mon cher. Je suis malade. » »«
Je pensais bien que cela arriverait, » dit le médecin en secouant la tête. « Trop de travail, trop de soucis, trop de cigares, et puis vous n'êtes plus tout jeune, mon cher Philippe. »
« Ce n'est ni le travail ni le cigare, » dit M. Philippe avec impatience. « C'est le souci. C'est un souci. Né de circonstances particulières, étranges, fantastiques. »
Il s'arrêta, car il éprouvait un sentiment de gêne, presque de honte. Le médecin le regarda attentivement et lui tâta le pouls. « Quelles sont ces circonstances particulières ? » demanda-t-il.
« Eh bien,
je peux à peine me les expliquer à moi-même, » répliqua M. Philippe. « C'est quelque chose d'irréel, d'immatériel, de fantomatique. Tout ce que vous voudrez. Peut-être pourrais-je mieux vous faire comprendre en vous disant qu'il me semble toujours attendre quelque événement extraordinaire. » Le docteur éclata de rire, mais M. Philippe le regarda d'un air quelque peu offensé. « La plupart d'entre nous attendent quelque chose, » dit le médecin, « et si nous ne l'attendions plus, nous ne prendrions plus grand intérêt à la vie. Quelle est exactement la sorte de chose que vous attendez ?» M. Philippe se leva brusquement et se mit à marcher de long en large. Il serrait les lèvres, et dans ses yeux se lisait une obsédante et folle frayeur. « J'attends toujours une sonnerie de gong, » dit-il tout à coup, et aussitôt ses joues se couvrirent d'une vive rougeur. « Je sais que c'est absurde, » continua-t-il, « mais je m'éveille la nuit en tremblant, et je reste là des heures, à attendre. J'ai rêvé de cette sonnerie plus que personne n'a jamais rêvé de n'importe quoi. À mon bureau, je me surprends les nerfs tendus, l'oreille aux aguets. J'écoute, j'attends. Pendant que je cause avec quelqu'un, j'attends. Cela me rend fou, 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 comprenez-vous ? » Le médecin se leva, la face grave. Il s'approcha du banquier et le fit rasseoir. « Vous faites l'enfant, Philippe, » dit-il. « Asseyez-vous et comptez-moi cela en détail. » « Attention, » dit le financier en frappant du poing sur le bureau du docteur. « Je vais vous le dire, mais il faut me croire. Il faut absolument me croire. Si vous ne me croyez pas, alors cela voudra dire que je suis devenu fou. « Racontez-moi tout, » ordonna fermement le médecin. Alors, d'une voix entrecoupée, en hésitant, se reprenant, M. Philippe raconta ce qui était arrivé. L'obsession, la peur, la nervosité aiguë étincelaient dans son regard, et de temps en temps, ses lèvres tremblaient comme celles d'un petit enfant. Le médecin l'écouta très attentivement et fit plusieurs fois des signes d'assentiment. « Ce gong doit avoir quelque chose de magique, » conclut M. Philippe.
Il n'y a aucune explication raisonnable à la chose. Mon bon sens me dit qu'il ne raisonne pas du tout, et cependant je sais qu'il raisonne tout seul. » Le docteur demeura silencieux quelques minutes, puis dit « Vous êtes certain que votre femme l'a acheté à ce vieux brocanteur ?»«
Certes, oui. C'est absolument prouvé du reste par les lettres qu'il a écrites pour essayer de le racheter.
Votre peur nerveuse vient-elle de ce que M. Matsumi, le japonais, vous a dit ?»«
Non, ce n'est pas la dénégation du vieux marchand, ce ne sont pas les enfantines paroles de mon invité. C'est le son même du gong qui m'affole. C'est cette vaine, constante, abominable recherche d'une raison, d'une cause à ce phénomène. Cet objet inanimé se comporte comme s'il était vivant. »
Le médecin avait longuement tâté le pouls de M. Philippe, puis il prépara aussitôt une potion calmante que le financier avala d'un trait. Quelques instants après, le banquier rentrait chez lui, un peu plus calme et pourvu d'une sévère ordonnance médicale. « Vous avez surtout besoin de 6 mois de vacances complètes, » avait dit le docteur. « Prenez au moins 3 semaines. Arrangez vos affaires et allez voyager. En attendant, si vous ne voulez pas vendre ce gong ou le jeter, enfermez-le dans quelque coin où l'on ne puisse ni le voir ni l'entendre. » Le lendemain matin, un homme, un étranger, fut trouvé mort dans le cabinet de travail de M. Philippe. On retrouva la balle de revolver qui lui avait traversé la poitrine. La porte qui communiquait avec le hall était encore fermée à clef, mais la fenêtre qui donnait à l'est était ouverte, et c'est par là que l'homme avait dû s'introduire. Monsieur et Madame Philippe vinrent aussitôt que les domestiques leur eurent annoncé l'événement. Madame Philippe entra la première, et à la vue du cadavre encore étendu à terre, elle demeura quelques instants sans voix, puis s'écriant « Mais c'est l'homme à qui j'ai acheté le gong ! C'est Wagner !» Elle se retourna vers son mari, qui regardait par-dessus son épaule. Il avait les joues et les lèvres blanches, et ses regards étaient tout égarés. « Jean Wagner ! » s'écria-t-il à son tour. « C'est Jean Wagner ?» Alors, comme saisi d'une idée soudaine, il se précipita furieusement vers le gong en levant les bras comme s'il voulait le détruire. Mais il s'arrêta soudain comme s'il eût reçu un coup de massue sur le visage. Il chancela et se couvrit les yeux de ses deux mains en criant « Regardez ! Regardez !» Il y avait une tache de sang, une tache toute rouge et fraîche sur le 5e disque du gong. Madame Philippe regardait tour à tour le gong et son mari, qui se tint longtemps les mains sur les yeux, puis se mit à rire d'une façon diabolique, d'un rire d'halluciné ou d'aliéné.
Seconde partie. Au-dessus d'une flamme bleue, une cornue chauffe à demi remplie d'un liquide jaunâtre et trouble. Un tuyau de cuivre, aux sinuosités étranges, sort de l'instrument et va se perdre dans l'ombre du laboratoire. Un homme, au visage glabre, se penche sur l'instrument. C'est le professeur Auguste Bajolin. Un rayon de lumière projeté par un réflecteur éclaire toute la table du laboratoire. Le savant prit une parcelle du liquide et la plaça sur la tablette du microscope. À ce moment, sa tête et son visage, vivement éclairés d'un côté et plongés de l'autre dans l'obscurité, offraient un spectacle bizarre. Cette tête et ce visage étaient singuliers. La tête énorme bombait sous une grosse touffe de cheveux jaunes, le visage mince, glabre, vif, s'éclairait de 2 yeux d'un bleu pâle, aux pupilles étroites, aux regards nets et rapides, louchant continuellement au-dessus des lunettes aux verres épais, ajoutez à cela des mains petites, blanches, pourvues de doigts extraordinairement longs et grêles, et vous aurez le portrait du personnage. Cet homme, doté d'une grosse tête, était un des princes indiscutés de la science. Une intelligence hors ligne, une mémoire étonnante, une logique inattaquable, une puissance de travail énorme, telles étaient les qualités maîtresses de cet homme de génie. Le reporter Hatch, son ami, l'avait surnommé la machine à penser, et il faut avouer que ce titre lui convenait à merveille. Tandis que le savant faisait son observation microscopique, le reporter, un grand et maigre jeune homme, le regardait avec curiosité. Le professeur parlait sur un ton de perpétuel ennui, mais Hatch le connaissait depuis trop longtemps pour ne pas savoir que c'était ce qu'il disait qu'il fallait soigneusement retenir et non la façon dont il le disait. « L'imagination, monsieur Hatch, est le seul lien qui rattache l'homme à l'infini, » disait le maître. « C'est la seule faculté qui nous distingue des êtres que nous appelons des brutes et qui ont cependant les mêmes passions, les mêmes appétits et les mêmes désirs que nous.
Cette faculté a une valeur inestimable pour la science, car elle nous permet de résoudre tous les problèmes matériels. Nous ne saurions rien accomplir, rien achever, si nous ne l'avions auparavant imaginé. Tant qu'une cervelle humaine peut imaginer, elle peut comprendre. Nous n'arrivons pas à comprendre Dieu uniquement parce que nous ne pouvons pas nous l'imaginer. Ce n'était pas cela que le reporter était venu demander au savant, mais il l'écoutait avec intérêt, sachant bien qu'il finirait par savoir ce qu'il voulait. Le premier être intelligent, continuait le maître, a dû imaginer que lorsqu'on ajoutait deux choses à deux autres de même espèce, il devait y avoir un résultat. Il trouva que c'était quatre, et ce fut dès lors un principe de logique qui sert à résoudre les problèmes. Depuis ce moment, deux et deux font quatre, non pas quelquefois, mais toujours. « Je pensais que l'imagination était sans limite, » risqua le reporter. Bajolin loucha de son côté. « Au contraire, » déclara-t-il, « l'imagination a des frontières au-delà desquelles l'esprit chancelle et se perd. Je vais vous y mener et vous verrez. » Ainsi, avec un microscope beaucoup moins puissant que celui que vous voyez sur ma table, on a pu formuler la théorie atomique et moléculaire, d'après laquelle, comme vous le savez, toute substance est composée d'atomes infiniment petits. L'imagination suggère et la logique démontre que ces atomes sont eux-mêmes composés d'atomes et ainsi de suite à l'infini. Tous ces atomes sont simplement invisibles et l'imagination peut vous faire entrevoir que chacun d'eux est un monde habité, un globe relativement aussi éloigné des autres que la Terre de la Lune. Il s'arrêta un instant. Hatch clignait des yeux. « Mais là, nous touchons à la limite de notre intelligence, » reprit le professeur. Il y a une autre limite dans l'autre sens, c'est au bout du télescope. Le plus puissant de ces instruments ne découvre aucune fin, aucune borne à l'univers. Il ne sert qu'à découvrir des mondes de plus en plus nombreux. Alors l'imagination et la logique nous permettent de déclarer que notre monde n'est qu'une parcelle infiniment petite du système solaire, c'est-à-dire un atome. La grandeur de ces conceptions oppressait le reporter, jamais de sa vie, il ne s'était senti si peu de choses. Maintenant, monsieur Hatch, pour en revenir au petit problème qui vous déconcerte, continua le professeur d'un ton décidé qui soulagea immédiatement l'esprit de son interlocuteur, tout ce que je viens de dire ne s'y rapporte que dans la mesure nécessaire pour prouver qu'il faut absolument de l'imagination pour résoudre n'importe quel problème. Tout problème a une solution et il suffit de l'étudier logiquement pour le résoudre. Ces simples règles m'ont toujours réussi. Le reporter se sentit plus à l'aise désormais pour exposer au professeur les étranges circonstances dans lesquelles on venait de trouver Jean Wagner, brocanteur, mort dans le cabinet de travail de M. Franklin Philippe, le grand banquier. Mais ces informations étaient celles de la police, et trois personnes seulement, M. Philippe, le docteur Perdu et M. Matsumi, connaissaient le mystère des sonneries du gong. « La tache de sang sur le gong, » conclut Hatch, « peut avoir été faite par un doigt humain. » Mais comment a-t-elle été faite? Je l'ignore. La police cherche à éclaircir quelques points singuliers. D'abord, le détective Mallory a reconnu en la personne du mort le vieux Wagner, un antiquaire longtemps soupçonné d'être un receleur. Secondement, on fait rechercher un domestique de M. Philippe. Ce garçon, Gilles Francis, a disparu. On sait seulement qu'à 11 heures du soir, la nuit de la mort de Wagner, ce valet était couché dans sa chambre. Mais depuis, il n'a été aperçu nulle part. Il a tout laissé derrière lui, tous ses habits, excepté une paire de souliers, un pantalon et une chemise de nuit. Bajolin tourna le dos à la table de laboratoire et s'assit. Pendant quelques minutes, il resta dans sa position favorite, sa grosse tête appuyée au dossier du fauteuil, les jambes allongées, les doigts de chaque main appuyés l'un contre l'autre, bout à bout. « Si Wagner a eu le cœur traversé d'une balle de revolver, » dit-il enfin, « c'est que sa mort a été instantanée. Il n'a pas pu faire cette marque sanglante sur le gong. Mais alors, pourquoi cette tache de sang ? » Le détective Mallory pense, « Oh, peu importe ce qu'il pense, » interrompit le professeur. « À quelle heure a-t-on trouvé le corps ? » « Vers 9h30, hier matin. On n'a constaté aucun vol. » « Aucun. Le corps de Wagner était là, simplement. Une fenêtre était ouverte et la porte fermée à clé. » Il y eut un silence. Le front du savant se couvrait de rides sinueuses, entrelacées, étranges, ses yeux se fermaient à demi. Le reporter le considérait curieusement. « Que dit M. Philippe de tout cela ? » demanda Bajolin en regardant toujours le plafond. Il est malade. Je ne sais pas exactement ce qu'il a. En tout cas, son médecin n'a pas permis qu'il fût interrogé. »
Le savant abaissa vivement son regard aigu sur le journaliste. « Vous ne savez pas ce qu'il a ?»«
Non, le médecin a refusé de donner aucun renseignement. »
Une demi-heure plus tard, Bajolin et Hatch entraient chez M. Philippe. Ils rencontrèrent le docteur Perdu qui en sortait. Il avait le visage grave et préoccupé. Il semblait avoir perdu toute sa bonne humeur et sa gaieté. Il serra la main du professeur Bajolin qu'il avait déjà eu l'occasion de rencontrer et entra de nouveau avec lui et Hatch chez le banquier. Ils se rendirent ensemble dans la petite pièce où s'était déroulée la tragédie. Le gong japonais n'avait pas été enlevé. En entrant, le savant se dirigea droit vers l'objet et pendant 5 bonnes minutes, il se consacra entièrement à l'examen de la tache sanglante que l'on voyait sur le 5e timbre. Hatch ne put rien deviner de ses pensées, sa physionomie resta impassible. La tache était-elle due à une main ? Hatch lui-même ne pouvait répondre à cette question, il comprenait bien du reste qu'elle ne saurait constituer un indice, car le sang épaissi avait embrouillé et effacé les empreintes digitales qui servent à reconstituer l'identité des criminels. Le professeur se dirigea ensuite vers la fenêtre et l'ouvrit. Il demeura encore longtemps debout dans l'embrasure de cette fenêtre, tandis que son front se ridait sous l'effort de sa pensée. La petite pièce se trouvait au 2nd étage et juste au coin du bâtiment du côté de la rue. À ce coin s'ouvrait une étroite allée qui donnait accès aux cuisines. Cette allée seule séparait la maison de M. Philippe de celle de son voisin immédiat. Les murs des 2 bâtiments n'étaient distants que 1,5 mètre, et aucune des 2 maisons voisines n'avait de fenêtre sur le passage, de sorte qu'un homme pouvait fort bien grimper de l'allée jusqu'à la hauteur du cabinet de travail de M. Philippe, sans être vu et en s'aidant des 2 murailles rapprochées. Il pouvait ensuite contourner l'angle sur la corniche du 1er étage. « Pourriez-vous me dire, Perdu ?» demanda enfin le professeur. « Combien il y a de portes à cette maison ?»«
2 seulement, répondit le médecin. « La grande porte d'entrée sur la rue, et une porte de service au fond de l'allée.
Toutes 2 ont été retrouvées fermées hier matin.
Oui, elles sont pourvues de loquets qui les ferment automatiquement. »
À ce moment, le savant parut frappé d'une idée nouvelle. Il se rapprocha du gong et se remit à l'examiner comme si, dans sa pensée, cet objet prenait tout à coup une importance considérable. Avec un canif, il fit une légère marque à chacun des disques, puis les dévissa soigneusement l'un après l'autre. À l'intérieur du plus grand, il aperçut une sorte de marque singulière. C'était un cercle minuscule, surmonté de 3 petites lignes et contenant 3 points à peine perceptibles. Le docteur et le journaliste regardaient par-dessus son épaule. « C'est une marque de fabrique, peut-être, » suggéra le reporter. « Naturellement, il est impossible que cet objet ait le moindre rapport, » commença le médecin.
« Rien n'est impossible, » gronda le professeur. « Ne dites pas cela, je vous en prie, cela me fait sursauter. »
Il continua à examiner le gong qu'il avait remis en place. « Où le cadavre se trouvait-il exactement ? » demanda-t-il après un silence.
« Ici, » répondit le médecin en désignant le bord du tapis près de la fenêtre.
Le professeur mesura des yeux la distance. « La seule question difficile à résoudre, » dit-il, comme s'il se parlait à lui-même, « c'est de savoir pourquoi il a refermé la porte et s'est enfui. »«
Qui ?» demanda vivement Hatch.
Bajolin le regarda d'un air moqueur et ne répondit pas.
« Maintenant, docteur, » dit tout à coup le professeur, « quelle est la maladie de M. Philippe ?»
C'est... Vous savez, Bajolin, il y a quelque chose au fond de cette affaire qui n'a pas été dévoilé, pour des raisons excellentes à mon avis. Il se peut que cela vous intéresse, car vous avez du goût pour ces sortes de choses. Mais je ne crois pas que cela vous soit d'une grande utilité pour arriver à la vérité. Je ne peux en faire confidence qu'à vous seul.
Ce disant, le médecin regardait Hatch d'un air significatif.
« Il y a quelque chose d'autre au sujet du gong ?»
« N'est-ce pas ?»
dit le professeur d'un air tranquille.
« Oui, au sujet du gong, » répondit le médecin un peu surpris de cette assurance, « mais, comme je viens de dire,
j'ai accepté de m'occuper de cette affaire pour aider M. Hatch, » expliqua le professeur, « mais je puis affirmer qu'il n'imprimera rien sans ma permission. »
Le médecin regarda le journaliste d'un air interrogateur et celui-ci fit un signe qui promettait la discrétion.
« Je crois qu'il vaudrait mieux, » dit le médecin, « que vous entendiez d'abord M. Philippe lui-même.
Venez avec moi, je crois qu'il vous recevra et vous racontera tout. »
Monsieur Philippe était au lit. Le puissant financier n'était plus qu'une ombre. Son visage énergique était maintenant tout pâle et ravagé, au point d'en être méconnaissable. Ses lèvres même étaient presque blanches, ses mains tremblaient, ses yeux n'exprimaient que de l'horreur. Le financier parla volontiers, semblant même ressentir un certain soulagement, à narrer en détail toutes ces circonstances qui, en définitive, avaient causé sa maladie. Tout en parlant avec beaucoup de volubilité, mais sans incohérence, ses regards errants s'attachèrent surtout sur l'énigmatique figure du professeur, comme pour y chercher, plus que toute autre chose, la foi en son récit. Il y vit en effet des marques de confiance. Le savant inclina plusieurs fois la tête en signe d'approbation, et les assistants remarquèrent que les rides de son front s'étaient presque toutes dissipées.
« Je comprends maintenant pourquoi il s'est enfui, » dit posément le savant lorsque M. Philippe eut achevé.
Cette remarque était totalement dépourvue de signification pour les auditeurs, mais le maître ne daigna pas s'expliquer.
« Si j'ai bien compris, M. Philippe, continua-t-il, la fenêtre du cabinet de travail se trouvait toujours ouverte quand le gong sonnait.
« Oui, je crois que toutes les fois elle était ouverte, » répondit M. Philippe après un instant de réflexion.
« Et vous l'entendiez toujours lorsque la fenêtre était ouverte ?»«
Oh non, » dit le banquier, « il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir la fenêtre ouverte et de ne pas entendre le gong. »
Une certaine surprise se peignit sur le visage du professeur, puis s'effaça.
« Naturellement, naturellement, » reprit-il après un moment de silence. « Je suis stupide, j'aurais dû y penser. Maintenant, dites-moi, la première fois que vous avez entendu sonner le gong, les deux coups se sont suivis à quelques secondes d'intervalle, n'est-ce pas ?»«
Oui. »
« Et vous possédiez alors ce gong depuis 2 ou 3 mois ?»«
Depuis environ 3 mois,
oui. »
« Il faisait froid à cette époque, vers la fin de l'hiver. »
« Je crois, je ne m'en souviens pas bien. Je sais que la première fois que j'ai entendu le gong, ce fut par une des premières soirées tièdes du printemps, car c'était la première fois que je travaillais avec ma fenêtre ouverte. »
Le savant réfléchissait, les yeux au plafond, les bouts des doigts des deux mains appuyés les uns contre les autres, suivant sa coutume. Déjà, un peu de calme et de confiance se lisait sur la physionomie du malade.
« Vous avez dit, reprit Bajolin, que vous avez entendu le gong retentir 2 fois très tard dans la nuit. Dans quelles circonstances ?»«
C'était la veille de plusieurs opérations financières importantes, » expliqua M. Philippe. « J'étais resté à travailler bien après minuit dans mon cabinet. »«
Vous rappelez-vous la date ?»«
Parfaitement. C'était un vendredi, le 11 du mois. Je m'en souviens bien parce que le lendemain, je fis monter très haut les actions du chemin de fer que j'administre. »
Le professeur fit un signe d'assentiment.
« Le domestique qui a disparu de chez vous, n'était-ce pas un garçon un peu timide ?»«
Je ne saurais le dire, » répondit M. Philippe.
« Il devait l'être, » conclut péremptoirement le professeur. « Mais c'était, n'est-ce pas, un bon serviteur ?»«
Oh oui, excellent. »
« Entrait-il dans son service de fermer les fenêtres que l'on avait laissées ouvertes le soir ?»«
Certainement. C'était un homme plutôt grand. » »«
Oui, 6 pieds environ. »
Et Monsieur Matsumi est plutôt petit.
Oui, petit, même pour un japonais.
Le professeur se leva et posa ses doigts sur le poignet de Monsieur Philippe.
Avez-vous remarqué une odeur spéciale après la sonnerie du gong ? Demanda-t-il encore au bout d'un moment.
Une odeur ? Mais vraiment, je ne vois pas ce qu'une odeur peut avoir à faire avec...
Pas grand-chose, dit froidement Bajolin. Mais je désirais seulement savoir si vous avez observé une odeur particulière dans ces circonstances.
Non, non, répliqua brièvement le banquier.
Et pouvez-vous préciser l'impression que vous ressentiez quand la sonnerie du gong se faisait entendre ?
Il est bien difficile de répondre à cette question, dit M. Philippe. Il m'a toujours semblé que je recevais un choc, mais je crois que c'était une impression nerveuse qui m'empoignait.
Le professeur se dirigea vers la fenêtre et demeura un instant immobile, le dos tourné aux assistants. Pendant ce temps, les 3 hommes attendaient le résultat de ses réflexions. En fixant ses abondants cheveux jaunes, ils cherchaient tous 3 à comprendre pourquoi le professeur avait posé ces questions. Elles étaient si bizarres que les auditeurs ne pouvaient deviner par suite de quelles associations d'idées elles avaient été émises.
« Je crois bien maintenant que tout cela est fort clair, » dit enfin le professeur en se retournant.
« Il me faut encore des réponses à 2 questions importantes. » Si la première réponse est affirmative,
Je dirais que c'est un esprit. Disons tout de suite un esprit japonais, tortueux et subtil, qui a combiné toute l'affaire. Mais si la réponse est négative, tout devient d'une simplicité ridicule. M. Philippe se pencha en avant, il semblait partagé entre le doute et la confiance. Le médecin gardait un silence incrédule, le reporter attendait. « Mais qu'est-ce qui fait sonner le gong ?» interrogea le financier. « Il me faut des réponses aux deux problèmes dont je vous ai parlé, et alors je vous répondrai, » répliqua Bajolin. « Vous avez prononcé le mot de japonais, » reprit M. Philippe. « Soupçonnez-vous, M. Matsumi, d'avoir pris part à tout ce qui est arrivé ?»«
Je ne soupçonne jamais personne, M. Philippe, » dit brièvement le professeur. « Je ne soupçonne pas, je sais. Lorsque je saurai la vérité dans votre affaire, je vous en ferai part. Pour le moment, M. Hatch et moi allons sortir un instant. Lorsque nous reviendrons, tout pourra être élucidé en 10 minutes. » Il sortit le premier, et suivi du journaliste, il traversa le hall et revint au petit bureau du financier. Pour la troisième fois, il examina le gong. Il frappa le cinquième timbre assez violemment, à intervalles égaux, et après chaque coup, il se penchait pour renifler l'air tout près de l'instrument. Hatch le considérait avec étonnement. Lorsque le savant eut achevé son expérience, il secoua la tête comme s'il répondait négativement à une question qu'il s'était posée, puis, toujours suivi de Hatch, il sortit dans la rue. « Qu'a donc M. Philippe ?» demanda le reporter au moment où ils atteignaient le trottoir. « Rien que de la peur, » dit l'autre. « Il est simplement malade d'angoisse parce qu'il ne sait pas pourquoi le gong sonne tout seul. » Si j'avais été absolument certain de la cause de cette sonnerie, je la lui aurais expliquée tout de suite. Mais je la connais maintenant. Vous savez, monsieur Hatch, que lorsqu'un événement ne peut s'expliquer immédiatement, certaines gens songent au surnaturel. Monsieur Philippe ne l'avouerait pas, mais je suis sûr qu'il voit quelque influence démoniaque dans ce phénomène. Il a peur, et cette peur l'a agité au point de le rendre presque fou. Quand je lui aurai clairement exposé la cause de ces sonneries, il sera guéri.
« Je comprends très bien que ce phénomène paraisse démoniaque, » dit Hatch. « Soupçonnez-vous ce qui le cause ?»«
J'en connais la cause, » répliqua le savant nerveusement. « Et si vous ne la connaissez pas aussi, c'est que vous êtes stupide. »
Le reporter hocha la tête. Les deux hommes traversèrent la rue et entrèrent dans le bâtiment qui faisait face à la maison de M. Philippe. Le professeur alla trouver le concierge et lui posa une seule question. « Y a-t-il eu ici un bal, une réception, une soirée, quelque fête de ce genre, dans la nuit du vendredi 11 de ce mois ?»«
Non, lui répondit-on, il n'y a jamais rien eu de pareil dans la maison. »«
Merci, dit Bajolin, au revoir. » Il fit brusquement volte-face, laissant au concierge le soin de se demander ce que cela voulait dire, et suivi du reporter, il grimpa lestement au premier étage. Là, ils se trouvèrent dans un large corridor qui traversait tout le bâtiment. Le professeur ne regarda ni à droite ni à gauche, il se dirigea droit au fond du corridor où s'ouvrait une large fenêtre. De cette fenêtre, Hatch et son compagnon apercevaient le panorama de toute la cité. Bajolin prit sa montre et la tint pendant quelques minutes dans sa main, puis il la replaça dans son gousset et se rendit à l'autre bout du corridor où une autre large fenêtre donnait dans la rue. De là, ils aperçurent juste en face d'eux l'angle de la maison de M. Philippe. La fenêtre du cabinet de travail du banquier semblait se trouver exactement vis-à-vis de celle où se tenaient le professeur et le journaliste. Bajolin ne s'attarda pas, il ne resta là qu'une seconde, puis redescendit dans la rue. Hatch aurait voulu poser 1000 questions, mais il n'en sortit pas une et se borna à suivre le professeur. En rentrant chez le financier, ils rencontrèrent son fils, Henri, et le médecin dans l'antichambre. Le docteur parut fort soulagé en apercevant Bajolin. « Je suis heureux que vous soyez si vite de retour, » lui dit-il rapidement. « Voici un fait nouveau et fort singulier. » Il parlait évidemment d'une longue enveloppe qu'il tenait à la main. « Entrez avec moi à la bibliothèque, » ajouta-t-il. Ils entrèrent, et le médecin referma soigneusement la porte. Il y a quelques minutes à peine, Henri a reçu par la poste une grande enveloppe qui contenait celle-ci, cachetée. Il allait la montrer à son père, mais il a réfléchi qu'il serait sans doute plus sage de... À ce moment, le professeur saisit l'enveloppe qui était blanche, soigneusement cachetée, et ne portait pour toute inscription qu'une ligne d'une écriture fine et très anguleuse. À n'ouvrir que lorsque le gong aura sonné 11 coups. quelque chose comme une vive satisfaction se peignit sur le visage du savant et un soupir s'échappa de ses lèvres. Puis il y eut un long silence. Henri Philippe, qui ne connaissait du mystère que la récente mort de Wagner, interrogeait le docteur du regard, tandis que le médecin lui-même tâchait de deviner la pensée de Bajolin. « Naturellement, vous ne savez pas ce qui émane de cette lettre, » demanda le professeur au jeune Henri. « Je n'en ai aucune idée, » répliqua celui-ci. « Cela semble fort intriguer M. Perdu, mais je ne comprends pas pourquoi. Vous ne savez pas qui a écrit l'adresse ?»«
Non,
mais moi je le sais. Elle est de M. Matsumi, » dit posément Bajolin. « Elle contient tout le secret de l'affaire du gong. Le simple fait de son arrivée prouve que tout est bien comme je pensais. »
« Cette lettre ne peut être de Matsumi, » protesta le jeune homme. « Le cachet postal est de l'étranger. »«
Cela prouve simplement qu'il est en fuite. »«
Alors c'est Matsumi qui a tué Wagner ?» demanda vivement Hatch.
« Je n'ai pas dit que cette lettre fût une confession, » dit Bajolin d'une voix irritée. « Elle ne doit contenir qu'une histoire du gong. Du reste... »
À ce moment, la porte s'ouvrit et Madame Philippe entra. Elle était en proie à la plus vive émotion.
« Docteur, il va plus mal, beaucoup plus mal, » dit-elle au médecin. « Venez vite, je vous en prie. »
Le docteur se tourna vers le savant, impassible. « Bajolin, » dit-il solennellement, « si vous savez quelque chose qui puisse expliquer ces mystères, pour l'amour du ciel, dites-le maintenant. Je sais que cela peut sauver une intelligence et sans doute aussi une vie humaine. »
« A-t-il sa connaissance ?» demanda le savant à Madame Philippe.
« Non, il paraît complètement évanoui, » dit-elle. J'étais en train de lui parler lorsque tout à coup il se souleva comme s'il prêtait l'oreille pour percevoir un bruit lointain, puis il cria des mots que je ne compris pas et il retomba sur son lit, sans connaissance.
Le médecin sortit aussitôt avec la femme et le fils du malade. Bajolin regarda sa montre. Il était 4h03. Il se tourna vers Hatch. « Ayez la bonté, lui dit-il, d'aller dans le cabinet de travail de M. Philippe et de fermer la fenêtre. « Monsieur Philippe a entendu de nouveau le gong, et je crois que Perdu a besoin de moi. En attendant, mettez cette enveloppe dans votre poche. » Et il tendit au reporter l'enveloppe cachetée reçue par le jeune Henri Philippe. Vers 9h20, le soir de ce même jour, Monsieur Philippe, encore pâle et faible, mais redevenu maître de lui, le docteur Perdu, Bajolin, Henri Philippe et Hatch, se trouvèrent réunis dans le petit cabinet de travail du banquier. Durant 4 longues heures, Perdu et Bajolin avaient travaillé de concert pour ranimer le malade évanoui. Enfin, après de terribles efforts, une faible coloration était revenue aux joues du malade et il avait repris conscience. « C'est moi qui ai demandé à ce que nous nous réunissions ici, » expliqua le professeur Bajolin. « Je veux vous expliquer nettement comment et pourquoi ce gong résonne sans cause apparente, et cela éclaircira en même temps tous les autres points du mystère. « Voyons, si je puis vous prédire qu'à tel moment, le gong sonnera un nombre de fois déterminé, et que cela arrive comme je l'aurais prédit, serez-vous convaincu que j'en connais la cause, et me croirez-vous si j'affirme que ce phénomène est parfaitement naturel ?»«
Certainement, » répondit vivement le malade.
« Donc, si je vous démontre clairement comment le fait se produit, vous serez satisfait ?»«
Oui, naturellement !» s'écria M. Philippe.
« Très bien. » Le savant se retourna vers le reporter. « Monsieur Hatch, dit-il, ayez la bonté de téléphoner à l'observatoire pour demander s'il ne s'est pas produit une tempête vers le milieu de la nuit où Wagner est mort ici, et s'il y a eu du tonnerre. Faites-vous donner aussi la direction et la vitesse du vent. Je sais d'avance qu'il y a eu du tonnerre et que le vent venait de l'est ou qu'il n'y en avait point. Je le sais, non d'après mes observations personnelles, mais je le déduis de la logique des événements. » Le journaliste fit un signe d'assentiment. « Ah, je voudrais aussi un violon et un verre à champagne, » dit le savant. Il y avait un violon dans la maison. Henri Philippe alla le chercher, tandis que le reporter sortait pour téléphoner. Quelques minutes plus tard, il revenait dans le petit bureau où Henri Philippe avait déjà apporté l'instrument demandé. « Il y eut un léger vent d'est, ayant une vitesse de 5 km/h, » dit Hatch. Quant à l'orage, il menaçait en effet vers minuit, et il se produisit alors plusieurs éclairs et quelques forts coups de tonnerre. L'excellent docteur Perdu voyait quelque charlatanisme dans tous ses préliminaires. M. Philippe semblait intéressé et impatient. Bajolin était assis dans un fauteuil, la montre à la main, et il tenait les yeux fixés au plafond. « Maintenant, M. Philippe, » annonça-t-il, dans 33 minutes et 45 secondes, le gong sonnera. Il sonnera 10 fois. Je me suis arrangé pour reproduire toutes les conditions dans lesquelles le phénomène s'est plusieurs fois produit, et de cette façon, il ne pourra plus vous rester de doute sur mes explications. » M. Philippe se pencha en avant, les mains crispées sur les bras de son fauteuil. « En attendant, continua le professeur, je vais vous expliquer les événements qui se sont produits, non par des suppositions, mais tels qu'ils sont nécessairement arrivés. Je les énumérerai, non dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés, mais dans l'ordre où chaque fait m'a été révélé par le raisonnement. La logique, monsieur Philippe, n'est qu'une opération mathématique. Les raisonnements basés sur les faits doivent être inévitablement aussi corrects que l'addition de 2 avec 2 qui produit 4, non pas quelquefois, mais toujours. Eh bien, un homme a été trouvé ici tué d'une balle au cœur. Il était venu pour voler. La fenêtre ouverte indique par où il est entré. Une autre personne a dû aussi entrer dans cette chambre, mais il est difficile de croire que 2 voleurs se soient introduits et que l'un ait tué l'autre avant l'accomplissement du vol. Car en fait, rien n'a été volé,
et il est encore moins admissible
qu'un homme soit venu ici simplement pour se suicider. Alors quoi ? Reste la tache de sang sur le gong. Elle a été faite par une main humaine. Mais un homme tué d'un coup de revolver au cœur ne peut pas l'avoir faite. Donc, nous savons qu'il s'est trouvé là une autre personne. La porte fermée à clé de l'extérieur confirme absolument cette hypothèse. Cette porte, n'est-ce pas, n'est jamais fermée à clé. Non. Alors, qui l'a fermée ? Certainement, ce n'est pas un second voleur, car il ne serait pas risqué dans la maison après ce coup de revolver qui avait pu réveiller les habitants. C'est donc quelqu'un de la maison qui a fermé la porte à clé. Qui ? Mais un de vos domestiques a disparu. A-t-il entendu du bruit dans la chambre ? Non, car il aurait réveillé d'autres domestiques pour lui aider à chasser les voleurs. Que lui est-il donc arrivé ? Où est-il ? Naturellement, il n'est pas impossible qu'il ait couru dehors pour chercher la police et qu'il ait été cueilli à sa sortie par des complices du voleur. Mais rappelez-vous, je vous prie, que les dernières nouvelles que nous avons de lui nous le représentent endormi dans son lit. La question importante est donc de savoir comment il a été réveillé la nuit du crime. Ce renseignement nous ferait connaître à peu près tout ce qu'il a fait par la suite. Le professeur Bajolin s'arrêta, regarda sa montre et jeta un coup d'œil sur la fenêtre qui était ouverte et munie de son store. « Nous savons, reprit-il, que si Francis avait été réveillé par les voleurs ou par un bruit qu'il aurait pu attribuer à des voleurs, il ne serait pas venu sans avoir réveillé d'autres domestiques. Nous devons supposer qu'il fut réveillé par un bruit quelconque. Lequel ? Le tonnerre ? Cela expliquerait tous ses actes. Supposons donc pour le moment que le tonnerre l'a réveillé. À ce moment, il pense à l'orage, et cela même lui rappelle qu'il a oublié de fermer la fenêtre de cette pièce. Alors, à moitié habillé, il accourt ici pour réparer cet oubli. Ce devait être juste avant minuit. Il rencontre Wagner, qui vient d'entrer par la fenêtre. Il le repousse, s'empare de son revolver, le voleur veut lutter, alors Francis tire et tue Wagner. Dès lors, les actes de Francis sont beaucoup plus difficiles à comprendre. À la rigueur, je vois bien que lorsque Wagner tomba, Francis a mis la main sur la poitrine du voleur pour voir s'il était mort, et s'est ainsi taché les doigts de sang. Mais ce qui est difficile à concevoir, c'est la raison pour laquelle il a touché le gong avec ses mains sanglantes, pourquoi il a fermé la porte derrière lui et s'est enfui hors de la maison. D'autre part, j'ai toujours attaché une importance capitale à ce gong, d'abord à cause de cette tache de sang, et je l'ai examiné de près dès mon arrivée. J'ai même éraflé les disques pour m'assurer qu'ils étaient de bronze et non de quelque métal précieux qui aurait pu attirer les voleurs. Et puis, monsieur Philippe, j'ai appris votre histoire, et immédiatement j'ai su pourquoi Francis avait refermé la porte et s'était enfui. C'est parce qu'il était horriblement, follement effrayé. Naturellement, il fut déjà un peu ébranlé lorsqu'il s'aperçut qu'il avait tué un homme. Alors, comme il était déjà épouvanté sans doute, le gong s'est mis à sonner. Cela lui fit le même effet qu'à vous, monsieur Philippe, mais en des circonstances bien plus tragiques. Le gong sonna 9, 10, peut-être 12 fois. Pour Francis, qui venait de tuer un homme, le phénomène dut paraître surnaturel, affolant. Il plaça sa main sur le disque pour en arrêter la vibration, puis fou de terreur, il s'enfuit, fermant la porte à clé derrière lui, et il quitta la maison. Il reviendra, j'en suis certain, car il était naturellement en état de légitime défense lorsqu'il tua ce malheureux Wagner. De nouveau, le professeur regarda sa montre. 18 minutes avaient passé sur les 33 qu'il avait prédites. « Maintenant, en ce qui concerne le gong lui-même, continua-t-il, son histoire n'a aucune importance. Il vient du Japon et nous savons qu'il est extrêmement vieux. D'après la conduite de M. Matsumi, nous devons penser que c'est un objet sacré, adoré peut-être au Japon. Nous pouvons même nous le représenter suspendu dans un temple, où peut-être il sonne, comme ici, et épouvante la foule des fidèles. Il est possible que ces sonneries soient considérées comme prophétiques. Il a disparu du Japon, on ne sait comment. Il n'est pas étonnant que M. Matsumi ait été bouleversé en le retrouvant ici, et ait cherché à le racheter. Vous avez refusé de le lui céder, M. Philippe. Alors, il est allé trouver le marchand Wagner. Il lui a peut-être offert une somme considérable s'il pouvait l'avoir. De là, les lettres de Wagner et ensuite sa présence chez vous. Ne pouvant le racheter, il essaya de le voler. S'il nia si fort l'avoir eu chez lui, c'est qu'il était, comme l'a soupçonné le détective Mallory, un receleur d'objets volés. Il avait peur d'une enquête et d'une descente de police dans son magasin. Il craignait un piège. Quand je vous ai demandé, monsieur Philippe, si vous n'aviez jamais senti une odeur particulière au moment où le gong sonnait, j'avais l'idée que peut-être les disques étaient recouverts de quelque substance empoisonnée qui pouvait se détacher en poussière au moment des vibrations et qui, une fois répandue dans l'air, aurait pu causer vos troubles nerveux. Mais il n'y avait rien de pareil. C'est tout, je crois. Mais la lettre cachetée, demanda le médecin. Oh, je l'ai ouverte, répondit le professeur. Elle a trait à une toute autre affaire. Le médecin crut deviner un avertissement dans le regard profond que le savant jeta sur lui. Il se tut et comprit qu'il ne fallait pas insister pour le moment. Entendant cela, Hatch passa la main sur la poche où il avait placé la lettre non décachetée et il sentit qu'elle y était encore. Il comprit aussi que le professeur ne voulait pas en parler. Marjolin, du reste, ne lui laissa pas le loisir de réflexion. Il se leva, regarda par la fenêtre, puis se tourna vers le reporter. « Maintenant, monsieur Hatch, dit-il, voulez-vous avoir la bonté de traverser la rue, de monter au premier de la maison en face, de vous rendre à ce corridor où nous étions ce matin? Veuillez ouvrir les deux fenêtres qui se font vis-à-vis, et veillez à ce qu'elles restent ouvertes pendant une vingtaine de minutes, puis vous reviendrez. Veuillez ne pas vous tenir dans ce corridor pendant ce temps, et empêchez si possible que quelqu'un d'autre s'y trouve. » Sans répondre un mot, ni poser une question, Hatch sortit. Le professeur s'enfonça dans son fauteuil, regarda sa montre, puis écrivit quelques mots sur une carte qu'il passa au médecin. « Tenez, dit-il, voici une excellente potion pour la maladie dont nous avons vu un exemple l'autre jour. » Le médecin prit la carte et lut. « La lettre est dangereuse. Elle prédit probablement la mort de quelqu'un. Elle doit avoir une signification religieuse. Je conseille de ne pas la montrer à M. Philippe. » « Bon, merci, je le saurai, répondit le praticien. Il y eut un silence de quelques minutes. Le professeur tenait les yeux fixés sur sa montre. M. Philippe regardait le gong d'un air plus anxieux qu'effrayé. « Dans 3 minutes exactement, dit enfin Bajolin. Un silence. Maintenant plus que 2. Encore un silence. Plus qu'une. Restez absolument immobile et écoutez. » Un autre silence. Maintenant. Boum. Sonna le gong, comme en écho de ce dernier mot. M. Philippe tressaillit malgré lui, et le savant lui prit le poignet. Boum. Un second coup résonna. Le gong sonnait sans bouger, sans frémir. Les notes se suivaient, rythmées et méthodiques. Les troisième, quatrième et cinquième coups retentirent, puis le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, le dixième. Tandis que résonnait encore le dernier coup, le professeur plongeait son regard dans les yeux de M. Philippe pour voir s'il comprenait enfin, mais il n'y lut que l'étonnement. Alors il saisit vivement le violon qu'avait apporté le fils du maître de la maison. « Tenez » s'écria-t-il, « regardez la coupe à champagne !» Il toucha légèrement avec l'archet le bord de la coupe qui résonna. Puis sur le violon, il chercha l'accord avec la note du cristal. Les notes qu'il produisit en cherchant l'accord n'éveillèrent aucun écho sur le verre. Mais lorsqu'il fit entendre la même note
que celle du verre, celui-ci répondit et, quoique éloigné de plusieurs mètres, résonna comme s'il avait été touché lui-même par l'archet. Bajolin fit retentir la note de plus en plus fort et le fragile cristal tressaillait, vibrait, se balançait en résonnant lorsque tout à coup le professeur, ayant encore plus fortement raclé la corde du violon, la coupe de champagne se renversa et se brisa sous les yeux des spectateurs étonnés. « C'est une simple démonstration de physique, » conclut le professeur. « En d'autres termes, c'est une expérience sur les vibrations. La vibration accordée fait vibrer le cristal exactement comme une autre vibration accordée fait résonner le gong. Vous m'avez vu faire résonner le verre. Ce qui fait résonner le gong, c'est une horloge qui se trouve directement vis-à-vis du gong dans la ville, à un demi-kilomètre à l'est. » Monsieur Philippe considéra le verre brisé, puis le savant. Au bout d'un instant, il comprit, et un inexprimable sentiment de soulagement se peignit sur ses traits ravagés par l'anxiété. « Mais le gong ne sonne pas toutes les fois que la fenêtre est ouverte, » objecta le docteur perdu. « Il ne peut sonner que lorsque cette fenêtre et les deux fenêtres qui se font vis-à-vis dans le corridor de la maison d'en face sont ouvertes à la fois. Il faut aussi que le vent vienne de l'est, ou qu'il n'en fasse point. Une bouffée d'air en sens contraire ou en sens latéral, une personne passant dans le corridor, n'importe quelle petite chose, peut briser les ondes sonores et empêcher le phénomène de se produire. Naturellement, la vibration du gong aurait pu être éveillée par un violon, ou même, si la bonne note en accord avec lui s'y trouvait, par un piano. J'avais pensé à cela tout de suite. C'est pourquoi M. Philippe, ayant entendu le gong longtemps après minuit, et personne ne jouant chez lui de ses instruments à cette heure-là, j'ai demandé d'abord au concierge de l'immeuble d'en face s'il y avait eu un bal ou une réception dans sa maison pendant la nuit indiquée, car ce n'est guère que dans un bal qu'on aurait pu jouer du violon après minuit. Mais il me répondit négativement. Dès lors, j'ai su que c'était la vibration du timbre d'une horloge éloignée qui venait faire sonner le cinquième disque du gong, le seul qui fût en accord avec la note de l'horloge. Du reste, « Voyez, cette horloge est si bien en ligne droite avec le gong et les deux fenêtres du corridor que vous pouvez l'apercevoir en vous mettant à la hauteur du gong et en regardant à travers les fenêtres ouvertes de la maison d'en face. Tout cela est logique, absolument logique. » Il y eut un silence. Le docteur perdu, en considérant son malade, se sentit tout à fait rassuré et sa gaieté lui revint. « Au lieu d'être un objet magique, Philippe, dit-il, « le gong va maintenant vous tenir lieu de pendule. » M. Philippe lui jeta un coup d'œil heureux et son blême visage s'éclaira d'un sourire. Au bout d'un moment, Hatch revint, ils se remirent tous à causer de l'affaire. Soudain, leur causerie fut interrompue par le gong qui se remit à sonner, lentement, méthodiquement, et fit entendre 11 coups. Tous les assistants regardèrent le gong, à l'exception de Bajolin, qui ne sourcilla pas et garda son regard rivé au plafond selon son habitude. « Voilà 11 heures, » dit-il enfin. « Hatch, vous avez laissé les fenêtres ouvertes dans le corridor, là-bas ?» Hatch fit un signe de tête affirmatif. M. Philippe était déjà couché et dormait calmement pour la première fois depuis bien longtemps lorsque le docteur, Bajolin et Hatch sortirent ensemble de la maison du financier. « Maintenant, Bajolin, » dit le docteur, « voulez-vous que nous nous rendions chez moi et que nous examinions cette lettre cachetée qu'a reçue le jeune Henri Philippe ?» Une fois chez le docteur, Bajolin prit la lettre qu'il avait confiée à Hatch et l'ouvrit. Le médecin regardait par-dessus ses épaules. Le savant parcourut la page, puis, sans qu'on puisse rien deviner de ses pensées, il frotta une allumette et brûla le papier. « Mais, » protesta le docteur, elle affirme que lorsque le gong frappera 11 coups, cela prédira un malheur. « C'est stupide, » grogna Bajolin. « Ce japonais aurait encore tourmenté ces pauvres gens si je l'avais laissé faire. Il a écrit ce que croient les fanatiques de son pays, ignorant de ce que je viens de vous expliquer. » Le papier flamba et Bajolin en jeta les cendres dans la corbeille à papier du médecin. 2 jours après cette scène, le banquier Philippe était redevenu lui-même. Le 4e jour, il reparut à sa banque. Le 6e jour, la bourse se ressentit de la réapparition du maître. Le 8e jour, le valet disparu, Francis, revint et raconta au juge une histoire concordant exactement avec ce qu'avait dit Bajolin.
Ici se termine le gong mystérieux de Jacques S. Futrelle. Enregistré par Christiane Johan.